France Culture.
Quand j'étais enfant, j'étais un gamin plutôt solitaire, pas forcément très populaire à l'école, tout ça. Donc c'est vrai que les animaux, c'était aussi un refuge. Eux, ils sont toujours là. C'était un peu une bouée de sauvetage quand ça allait pas forcément très bien. Et ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Le déclic avec les gibbons, c'est une rencontre avec Washo, une femelle. Elle est sortie de cette petite cabane chauffée pour aller voir le gamin qui était calé contre le grillage, c'était moi, et elle est venue me prendre la main. Et à ce moment-là, j'ai fait la promesse que j'allais tout faire, non seulement pour l'aider elle, mais aussi pour aider les gibbons.
Chani, le français qui sauve la biodiversité en Indonésie. N'avoir qu'une seule idée en tête, sauver les animaux, tel a toujours été le rêve d'Aurélien Brûlé. Depuis son enfance dans le Var, fasciné par les gibbons, jusqu'au combat mené en Indonésie depuis 27 ans et ses projets de conservation active. Face aux ravages provoqués par la déforestation, le braconnage et le trafic des animaux, les mines de charbon ou encore l'orpaillage illégal, il voue sa vie à la protection de l'environnement et de la biodiversité qui font la richesse des forêts indonésiennes. À l'occasion de son passage à Paris, il a accepté notre invitation. Avec nous, Aurélien Brûlé, bonsoir.
Bonsoir.
On vous surnomme Chani, qui veut dire ?
Gibbon en thaïlandais.
Et alors, vous êtes fondateur et directeur de l'association Kalawait, créée en 1998 et auteur aussi de nombreux livres, dont je mentionne le dernier paru, Hâte d'être à demain pour continuer à sauver. C'est le titre de votre livre paru aux presses du Midi. Bienvenue à vous et bienvenue à toutes et à tous dans De Cause à Effet, le magazine de l'environnement de France Culture, en partenariat avec le journal Le Monde, émission préparée par Corinne Amar et Célestine Babinet, avec la collaboration de Vanessa Chang et Eva Canneparo de la documentation de Radio France. Émission réalisée par Alexandra Malka avec à la technique Élise Le.
Ces gibbons retrouvent peu à peu des forces dans ce sanctuaire qui leur est dédié au milieu de la forêt de Bornéo. Un centre imaginé par cet homme. Aurélien Brûlé, 36 ans, est français.
Elle a repris un peu de poids, non ? Elle va mieux ?
Le but, c'est de leur redonner une vie de gibbon. Et l'un des critères, c'est vraiment les isoler des humains. C'est pour ça qu'on a construit ces volières isolées comme ça dans la forêt, limiter les contacts visuels entre les gibbons. Ils communiquent que par les sons, ce qu'on entend autour de nous maintenant.
Et dès que les vétérinaires le jugeront possible, ils seront relâchés. Le plus grand problème pour les gibbons, c'est que leur territoire part peu à peu en fumée. Une déforestation massive pour construire des routes et des villes, mais surtout pour faire de la place aux exploitations d'huile de palme très rentables. 50% des forêts d'Indonésie ont disparu en un demi-siècle.
Reportage diffusé sur France TV New Delhi le 16 avril 2016. Depuis 27 ans, Chani, vous vivez en Indonésie, où vous vous consacrez à la protection de la biodiversité. Comment s'est construite cette destinée ?
Oh, longue histoire. C'est avant tout la rencontre des gibbons quand j'étais enfant dans le sud de la France, dans un zoo. J'étais attiré par les singes et c'était le seul endroit où je pouvais en voir.
Le zoo de Fréjus, hein,
c'est
parce
ça.
Que vous étiez, vous viviez dans le Var.
Dans le Var. Je suis originaire du village de Fayence. Et donc ma maman m'emmenait au zoo tous les mercredis pour voir les singes et des singes en particulier, les gibbons. Parce qu'avec mes yeux d'enfant, ils semblaient différents des autres. Ils paraissaient plus tristes encore que les autres en captivité. Parce qu'ils étaient toujours tout seuls. Je comprenais pas pourquoi. J'ai su après qu'ils étaient monogames, fidèles, qu'ils choisissaient leur partenaire, que c'était pas forcément facile en captivité. Donc, devant ces singes qui me paraissaient tristes, j'avais envie de faire quelque chose. Mmh. Mais pour ça, il fallait les comprendre. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à les observer, à essayer de comprendre ce que je pouvais faire pour eux. Et jusqu'à la promesse faite à cette femelle, quand j'étais gamin, de tout faire pour elle et pour les gibbons, et c'est encore ce que je fais aujourd'hui en Indonésie.
Et puis elle avait senti aussi que vous-même, vous étiez peut-être un peu isolé, seul, dans votre propre vie d'enfant ?
C'est ça. Les gibbons ont toujours été un refuge, les animaux ont toujours été un refuge, la nature. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup soutenu, donc c'était normal pour moi d'essayer de tout faire en retour pour eux.
Eh oui. À 12 ans, vous rencontrez le primatologue Jean-Yves Collet. À 13 ans, le zoo vous confie un travail, dresser une fiche d'identité pour chaque primate recensé. Et à 16 ans, vous écrivez votre premier livre, Le Gibbon à main blanche, paru aux mêmes éditions, aux Presses du Midi. Vous êtes très fidèle et c'est une très jolie maison d'édition, il faut le souligner. Et donc, la pertinence de votre livre a été quand même reconnue par les éthologues et les primatologues.
En fait, il y avait tellement de peu de choses sur les gibbons à l'époque que le gamin qui avait passé quasiment 4-5 ans à observer les gibbons en captivité, qui arrivait avec des suggestions, on l'a écouté parce qu'il n'y avait rien d'autre.
Une chance.
Enfin, c'est ça. Mais pour moi, j'ai fait aussi ce bouquin dans une démarche très prétentieuse, parce que j'allais apprendre aux gens à comment s'occuper des gibbons en captivité. Mais c'est drôle parce qu'encore aujourd'hui, il y a des choses dans ce bouquin que j'utilise dans les centres en Indonésie. Donc,
parce que vous étiez un fin observateur quand même, et vous avez rempli ce rôle d'éthologue, apprenti éthologue, mais vous l'avez fait quand même de belle manière.
Oui, c'était vraiment essayer de se mettre dans leur tête. Et c'est pas simplement connaître l'écologie d'une espèce, c'est de comprendre les individus, la personnalité, les besoins de chaque individu. Et c'est encore la clé aujourd'hui quand on essaie d'aider des animaux, d'aider des grands singes. Ils sont tous différents, ils ont tous leur histoire, ils ont tous leur trauma, ils ont tous... Donc oui, c'était vraiment important d'avoir du temps pour observer ça.
Et alors, vous mentionnez comme simple ado français, sensible à l'environnement à l'époque, passionné par les singes, et vous êtes parti donc sans connaissance précise des réalités territoriales et administratives, d'abord en Thaïlande, mais ensuite en Indonésie. Vous étiez quand même formé en éthologie, on peut dire.
Un autodidacte complet. Ouais. La Thaïlande, parce que c'était l'endroit le plus simple pour voir des gibbons à l'état sauvage. Mais je m'aperçois, là, c'était en 97, à ce moment-là, qu'il se passe une catastrophe écologique au même moment dans un autre pays, l'Indonésie. Et c'est pour ça que l'année suivante, je pars en Indonésie avec, entre-temps, le soutien de Muriel Robin, qui avait vu un article sur ce gamin qui passait son temps avec les gibbons. Et un jour, en rentrant du lycée, j'ai un coup de téléphone de Muriel Robin qui me dit « Eh bien, tu veux sauver les gibbons ? Eh bien, tu pars. Je vais t'aider, je serai toujours là. » Elle a financé le départ et aujourd'hui, j'ai 45 ans et elle est toujours là.
Elle est toujours fidèle. Et vous aviez des modèles à l'époque, on pense à Diane Fossey, les gorilles, Jane Goodall, les chimpanzés.
Bien sûr, pour moi, c'était des modèles. Birutė Galdikas, qui était la troisième grande dame qui s'occupe des orang-outans, avec qui je travaille aujourd'hui régulièrement. Diane Fossey, parce que c'est l'incarnation de l'engagement le plus ultime. Et Jane Goodall, pour tout ce qu'elle rayonne pour les chimpanzés. Donc, évidemment, c'est des modèles et ça le restera.
L'émerveillement et l'optimisme sont la colonne vertébrale de votre engagement, on peut dire ça?
Oui, l'optimisme, parce qu'on n'a pas le droit d'être pessimiste, parce que sinon, on va perdre nos moyens pour agir. Et l'action, c'est là où naît l'espoir. Donc, il faut être optimiste, réaliste aussi de la situation, mais de se dire qu'on peut faire la différence. Donc, il faut pas cesser. En tout cas, il faut pas perdre de temps à être pessimiste. Et ça, c'est vraiment une règle d'or que je me suis fixée, parce que face à la réalité, c'est pas toujours facile, mais il faut avoir cette vision des choses.
Pour embarquer, mais aussi parce que vous avez la conviction qu'on peut agir. Donc on va le comprendre dans votre parcours. Vous êtes français, mais naturalisé indonésien. Et donc, aujourd'hui, vous êtes à la tête de Kalawait. Que représente votre association? Quels sont ses objectifs? Voilà, en un mot, quelles sont les réserves qui constituent Kalawait?
Alors Kalawait a beaucoup évolué. Au départ, c'était un centre de soins pour les gibbons. C'était une simple SPA pour gibbons. Et puis l'idée de pouvoir les remettre dans la nature, sauf qu'on est confronté à une déforestation massive. Aujourd'hui, Kalawait, c'est sauver les gibbons, sauver tous les animaux lorsqu'ils sont encore dans la forêt. Donc essayer de sauver ces poches de forêt cernées par les industries, une huile de palme qui ravage tout encore aujourd'hui en Indonésie, et plus maintenant le charbon et d'autres industries. Donc on a une forêt fragmentée et il faut agir, trouver, être extrêmement pragmatique pour trouver les solutions concrètes, arrêter les grands blabla, arrêter les grands discours, regarder la situation telle qu'elle est pour avoir des effets et des résultats immédiats pour sauver ces animaux, encore une fois, lorsqu'ils sont dans les arbres. Parce que les recevoir dans nos centres et les mettre en volière, avec peu de chances de pouvoir les relâcher, c'est devenu insupportable pour moi. Et, Et donc j'ai eu besoin de trouver un autre moyen de les aider réellement. Mmh. Et encore une fois, quand ils arrivaient dans nos centres, c'était déjà trop tard.
Et pourquoi trop tard ?
Parce que c'est extrêmement compliqué de relâcher des primates qui ont été dans un environnement humain, qui ont été élevés par les humains. Les singes, les grands singes, apprennent énormément de leurs parents. Il y a un savoir qui doit être inculqué par les parents, par simple imitation aussi. Mais quand ils n'ont pas eu ce bagage-là, c'est extrêmement compliqué. Un simple exemple, le gibbon, c'est un singe strictement arboricole, qui ne descend jamais au sol. Son système immunitaire n'est pas fait pour être en contact avec des bactéries et parasites présents au sol. Sauf qu'un gibbon qui a vécu avec des humains, son exemple, ça a été les humains, exact. Donc il se déplace au sol. Donc si on le relâche dans la forêt et qu'il se déplace, c'est pas possible s'il se déplace au sol.
D'accord.
Donc c'est, rien que ça est extrêmement compliqué. Donc
dans vos réserves, il y a des animaux qui vont rester là tout le temps.
Voilà, dans notre centre de soins.
Oui, dans les centres de soins, c'est-à-dire...
Les animaux qui restent en volière.
D'accord.
Donc, la quasi-totalité resteront dans ces volières, par faute de sites de relâcher, parce qu'ils sont pas prêts, ils peuvent pas être relâchés. D'où est née une énorme frustration pour moi, parce que je suis allé en Indonésie pour relâcher des animaux, mais la réalité fait qu'aujourd'hui, je suis le plus grand centre de réhabilitation de gibbons au monde, avec le plus grand nombre de gibbons dans des cages.
Mmh. Et vous en avez combien à peu près ?
On en a 320 actuellement.
Ouais. Et donc parallèlement à ça, il fallait préserver des réserves, c'est-à-dire vraiment des parties de ces forêts ancestrales.
Trouver un moyen pour, au moins à l'échelle de mon association, pouvoir être capable de sauver ces poches de forêt menacées à très court terme par ces industries, et où tous les animaux ont convergé pour survivre, parce qu'ils ont fui la déforestation. Donc on parle de zones qui font quelques milliers d'hectares, mais à l'intérieur, une énorme densité d'animaux, d'orang-outans, de gibbons, d'ours malais. Des tigres à Sumatra.
Eh oui.
Et donc, il fallait, encore une fois, être extrêmement pragmatique, connaître et s'appuyer sur la législation indonésienne pour trouver des outils pour sauver ces forêts.
Alors ces forêts, alors aujourd'hui vous avez à peu près combien, 1500 hectares plus que ça ?
1500 hectares, c'était en 2022, aujourd'hui on a doublé la zone, on arrive à plus de 3000 hectares.
Ah oui.
Ce mois-ci on va faire une transaction.
Ça se précipite.
Voilà, tous les voyants sont au vert, on arrive à aller plus vite qu'avant, mais face à une urgence totale, donc on peut s'en féliciter, mais 3000 hectares c'est rien par rapport à ce qu'on perd, mais à l'échelle du paysage, et comme on le disait tout à l'heure, 300 gibbons en captivité, ça semble énorme, mais quand on nous dit que 2000 ou 3000 hectares, ça paraît très peu, mais c'est plus 300 gibbons sauvages sauvés, qui seraient plus là aujourd'hui, parce que la déforestation allait à une telle vitesse.
Et donc vous avez aussi de nouveaux projets, sécurisés, de nouvelles zones, je crois, avec des repérages donc en hydravion, ensuite ces repérages sur le sol, des zones qui seront déforestées à terme à cause des exploitations de palmiers plantés pour fabriquer de l'huile de palme. Et donc il faut aussi agir vite, on va le comprendre avec votre témoignage, et puis vous allez nous faire rentrer bien sûr à la fois dans la jungle, parce que vous l'arpentez quotidiennement, et vous allez nous expliquer comment vous fondez dans cet univers. Mais auparavant, je vous propose bien sûr de partir en Indonésie, l'un des pays les plus touchés par le trafic d'espèces et la déforestation.
Des palmiers à perte de vue, c'est maintenant le paysage de Sumatra. Pendant des années, Paksa Rijan et sa famille cultivaient du riz. Mais il y a 10 ans, il s'est lancé dans la culture du palmier à huile, plus rentable.
Il n'y a plus de forêt ici. Ce ne sont plus que des plantations.
En 2022, l'Indonésie a exporté près de 31 millions de tonnes d'huile de palme.
Avec l'huile de palme, on gagne tout de suite plus d'argent. Quand on plante du riz, il n'y a aucune garantie de faire un profit. Depuis que nous cultivons les palmiers, nous avons une meilleure vie et plus d'argent.
Pour améliorer l'image de l'huile de palme, le gouvernement indonésien cherche à réguler l'industrie. Officiellement, les plantations illégales devront bientôt payer des amendes et arrêter leur production. Selon le gouvernement, 200 000 hectares devraient être rendus à la forêt ces prochaines années.
Maintenant, nous sommes contents. Il n'y a même plus d'animaux sauvages pour nous embêter. Avant, c'était plus difficile. Les animaux, par exemple les cochons sauvages, détruisaient nos récoltes.
Les animaux sauvages de Sumatra sont les premières victimes de l'huile de palme. Aujourd'hui, les revenus de l'industrie représentent 4,5% du PIB du pays. Le secteur est toujours en pleine croissance grâce au biodiesel. Pour atteindre ses objectifs de transition énergétique, l'Indonésie doit encore défricher plus de 6 millions d'hectares de forêt.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
C'est un reportage diffusé sur France 24 le 17 avril 2024. Chani, on touche du doigt là quand même cette question de déforestation. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein. Moi, j'ai relevé quelques chiffres et vous allez peut-être nous en donner d'autres. En 2020, on estimait que chaque minute, l'équivalent de 6 terrains de football disparaissait en Indonésie, qui a perdu la moitié de sa forêt en 50 ans. L'un des pays les plus touchés, on peut dire.
Oui, je pense que sur la planète aujourd'hui, c'est l'endroit où la déforestation va le plus vite.
Et berceau d'une riche biodiversité.
Et voilà, et avec des espèces endémiques de toutes ces îles. Donc c'est une vraie problématique. Et comme on l'a entendu dans le reportage, évidemment, pour certaines familles, ça peut être une solution économique. Mais dans la grande majorité des cas, et on le voit notamment à Bornéo, c'est surtout les populations qui perdent une qualité de vie à cause d'un environnement qui est dégradé. Puisque plus de forêt, c'est aussi des rivières maintenant souillées par l'érosion, etc., etc. C'est pour ça que pour nous, sur le terrain, c'est absolument pas créer des réserves contre les populations locales, mais avec les populations locales qui nous soutiennent. Et c'est notre plus gros soutien pour arriver à protéger ces zones-là. Parce que c'est faire de la conservation sans léser les populations, mais avec les populations.
Et oui, parce qu'on aurait pu diffuser d'autres reportages dans lesquels on entend justement ces problèmes de questions de santé publique, hein, avec ces populations qui sont victimes aussi de ces feux, de la déforestation, ouais, et qui subissent dans leur propre santé. Les acteurs principaux de la déforestation, parce qu'on parle de l'industrie, la monoculture de palmiers, mais il y a aussi l'industrie du bois, pâte à papier, le charbon, il y a plusieurs acteurs, en fait.
Il y a plusieurs acteurs, mais le principal acteur aujourd'hui, c'est avant tout l'industrie de l'huile de palme. D'autant plus d'actualité encore aujourd'hui, parce que le gouvernement indonésien a mis un terme au moratoire sur les nouvelles concessions de palmiers à huile en janvier de cette année. Donc ça reste la première problématique sur Bornéo et Sumatra, pas sur toute l'Indonésie. Mais vous avez aussi le charbon qui vient s'ajouter au problème. Je vous parlais de poches de forêt cernées par les industries. C'est souvent des poches de forêt qui ont été épargnées par l'industrie de l'huile de palme, et c'est là où vient s'installer le charbon. Donc le charbon ne va pas s'installer sur des palmiers, évidemment. Il va prendre des zones vierges, et donc ça s'ajoute. Et on est effectivement face à une problématique. Donc aujourd'hui, nous, on va être confrontés souvent aux mines de charbon, parce qu'elles attaquent ces poches de forêt laissées par l'industrie de l'huile de palme, qui aura fait beaucoup plus de dégâts.
Et leur paillage.
Et leur paillage illégal.
Oui.
Donc c'est encore plus compliqué. Mais il y a des zones aussi, évidemment, à Bornéo, où c'est devenu des zones dévastées par leur paillage, justement dans des zones épargnées par le palmier à huile et les mines de charbon. Et là, ça devient un vrai problème de santé publique à cause du mercure. Tous ces problèmes s'ajoutent, et c'est ça qui est très compliqué.
Alors, quand on parle de sauvegarde de la biodiversité, hein, dans votre cas, on parle donc. On a compris qu'il y avait la clinique vétérinaire, il y a cette façon de sauver et de soigner ceux qui sont déjà victimes, mais c'est une sauvegarde avec des méthodes particulières, des moyens particuliers. D'ailleurs, quand vous parlez de certaines ONG, vous n'êtes pas très tendre avec elles, parce que vous estimez que votre travail diffère vraiment du leur, qu'au-delà des rapports et des études, il s'agit aujourd'hui de dire stop, et donc ça veut dire de partir sur le foncier.
Exactement, il faut être pragmatique. Il y a trop de discours un peu conceptuels de la conservation et qui ne sont pas du tout adaptés à la réalité du terrain. Aujourd'hui, vous avez une population qui souhaite mettre de côté une existence de subsistance qui est compliquée, et le seul moyen pour investir dans un nouveau mode de vie, un nouveau business, c'est de vendre les terrains. Et ils vont vendre les terrains aux compagnies. Donc l'idée de Karawet, c'est de dire, eh bien, on va utiliser les mêmes outils, que les acteurs de la déforestation, c'est-à-dire le foncier, puisqu'ils font du foncier pour s'accaparer les terres, sauf que nous, on en fait aujourd'hui des forêts communales protégées, gérées par Karawet. Donc on aide le village à faire du foncier, à faire en sorte que les populations touchent les mêmes sommes d'argent que si elles avaient vendu les terrains aux compagnies, sauf qu'elles ont toujours l'usufruit des terrains, mais tout le monde est d'accord pour ne pas chasser et pour ne pas bûcheronner. Mais elles peuvent récolter les fruits, le rotin, la sève de caoutchouc, des EVA, donc du coup, c'est tout à gagner. Donc aujourd'hui, on a une longue liste d'attente de personnes qui souhaitent travailler avec nous.
Mais ça a été
sur ce concept-là.
Un travail de longue haleine. Hein. On voit bien que les compagnies obtiennent des accords de l'État, on peut dire,
des concessions
plus facilement.
Oui,
ou pas.
Mais elles obtiennent des autorisations de Jakarta. Il y a une autonomie des provinces en Indonésie qui fait que c'est pas forcément gagné aussi dans la province. Et ensuite, elles doivent avant tout dédommager les populations locales. Et pour revenir sur les ONG où je différencie un peu Karawet, c'est que sur le terrain, on est très seul. Alors qu'en Indonésie, toutes les grandes ONG vont être représentées parce que justement, c'est un hotspot de la biodiversité. Mais il y a cette notion d'engagement et de pragmatisme qu'on retrouve pas beaucoup sur le terrain. Alors, on n'est pas vraiment tout seul. Mmh. Il y a d'autres ONG qui bossent sur les orangs-outans, etc. Mais, de manière générale, je suis extrêmement frustré par des discours où on va brasser beaucoup d'air et sur le terrain, rien n'est fait. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des résultats immédiats pour contrer cette déforestation, au moins avec les moyens qu'on a, mais faire des choses concrètes sur le terrain. C'est pour ça que je vis au plus près de la forêt, au plus près de la déforestation aussi, en vivant dans la forêt, et en étant extrêmement pragmatique, parce que je veux des actions concrètes qui apportent des résultats concrets.
Oui, parce que face aux tronçonneuses, aux bulldozers, aux fusils, les données, les rapports ne servent à rien.
Exactement.
C'est ce que vous nous expliquez dans votre livre, et il faut revenir à la réalité du terrain. Alors, en même temps, on peut se dire que les rapports, les études permettent quand même peut-être de sensibiliser,
ah oui,
d'interpeller les consciences endormies dans un monde qui a quand même coupé le cordon ombilical avec la nature.
Complètement. Et c'est pas du tout un discours anti-science ou au contraire. On va avoir besoin de ces datas, de ces données, mais les données en elles-mêmes ne sauvent pas la forêt, n'arrêtent pas les tronçonneuses. Donc c'est à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens sur le terrain qui retroussent leurs manches pour agir. Et encore une fois, c'est de l'action que naît l'espoir. Si on est tous à documenter la déforestation mais à ne rien faire, eh bien on perdra tout. Et donc c'est vraiment ça qui me motive et c'est là où pour moi naît un peu de frustration, même quand je vis en France, où je vois beaucoup de lanceurs d'alerte qui communiquent énormément. Mais ça suffit pas.
Au-delà de la communication.
Exactement.
Ah oui, vous nous faites penser à Paul Watson, hein, le pirate des mers qui est parti de Greenpeace et a fondé Sea Shepherd justement pour agir,
ouais,
et essayer d'arrêter les massacres là où ils se passent.
C'est ça, c'est un vrai exemple pour moi aussi, Paul Watson.
Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que en Indonésie, l'acquisition de terres, ça ne se fait pas comme chez nous. C'est-à-dire que la notion de propriété n'est pas la nôtre. Les terres appartiennent à qui ?
Alors, il va y avoir plusieurs niveaux de propriété en Indonésie. Donc, effectivement, selon le cadastre, il y a des zones qui sont considérées comme des forêts, alors qu'elles ne sont pas forcément physiquement, mais dans le cadastre, c'est forêt. Et dans ces zones-là, il va être quasiment impossible d'avoir un titre de propriété, le Graal, qui va lui être désigné par Jakarta. Mais vous avez localement, parce que les terres ont été utilisées, il va y avoir des arbres fruitiers, le village va délivrer un certificat de propriété, mais c'est par un certificat de propriété sur l'usage, sur l'usufruit en fait. Mmh. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça que les compagnies doivent payer pour pouvoir exploiter la zone, même si elles ont une concession. Sinon, elles se mettent à dos les populations et c'est juste pas possible d'exploiter. Donc c'est ce que nous, on va aussi acheter, dédommager, pour commencer à travailler, donc à protéger. Et c'est vrai que Jakarta voit ça d'un mauvais œil, parce que c'est une forme de propriété pas vraiment légale. Mmh. Mais c'est celle-là.
Jakarta, c'est le gouvernement central.
Gouvernement central, exactement. Et alors, la vue d'un mauvais œil pendant un temps, et aujourd'hui nous apporte son soutien. Les choses ont changé depuis aussi la publication du livre. Donc,
oui. Qu'est-ce qui a fait changer les choses, à
c'est
votre
le poids qu'on a dans les médias en Indonésie. Une de mes plus grandes fiertés aujourd'hui en Indonésie, c'est qu'on est extrêmement suivi par des millions de personnes sur YouTube, par des gens qui sont appropriés Kalawet, des Indonésiens. Et pour moi, c'est une grande fierté parce que être reconnu, être soutenu par les Indonésiens, on est devenu incontournable quand on parle d'environnement en Indonésie. Et c'est pour ça que les relations avec aujourd'hui le ministre des Forêts en Indonésie sont considérablement améliorées pour officialiser nos réserves, parce que voilà.
Parce qu'il vous faut un agrément, hein, du ministère des Forêts.
Il faut
aussi
un agrément pour s'occuper des animaux. Et pour les réserves, pour qu'elles rentrent dans le cadastre, oui, évidemment, il faut que le gouvernement central approuve cela, surtout si c'est dans des zones dans le cadastre référencé comme forêt. Bref, c'est très compliqué.
Oui, il faut aussi les accords des groupes familiaux, les coums.
Exactement.
Oui.
Et ça, c'est sur Sumatra, parce que quand on change d'île, les règles changent. Donc c'est ça qui, moi, m'a pris des années. Je me suis pris beaucoup d'échecs et de il a fallu apprendre de ces erreurs.
De nuits blanches,
de nuits blanches,
sueur froide.
C'est ça. Mais au final, c'est ce qui paye. Et c'est surtout parce qu'encore une fois, on a le soutien des populations locales à l'échelle nationale. Et encore une fois, moi, je me sens aujourd'hui plus indonésien que français, évidemment. Mmh. Et j'ai passé plus de temps en Indonésie qu'en France.
27 ans, hein.
Voilà, 27 ans. Mmh. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à faire la différence. Et cette notion d'engagement que aussi je retrouve que trop rarement dans les grandes ONG dont on parlait tout à l'heure. On ne peut pas parler de conservation sur un projet moyen terme de 3 ans ou dit long terme de 5 ans. Ça ne marche pas. Quand on protège ou on crée une réserve...
Il faut s'installer.
Il faut s'installer.
Et bien connaître ce contexte indonésien, donc avoir la connaissance fine des règles de propriété, on l'a compris, d'occupation des sols, les lois, les failles, les arrangements, les corruptions, les menaces, les incompréhensions possibles de populations locales, etc., etc. Parce que faut quand même dire que c'est un pays où la corruption est assez répandue.
Oui.
Donc il a fallu faire avec. Chani, on rentrera pas dans certains dossiers dont vous pouvez peut-être pas parler parce que ça mettrait à mal certains projets, mais on voit bien que c'est quand même cette difficulté au quotidien aussi.
Ça reste compliqué. C'est vrai que moi, je suis tombé aussi amoureux de l'Indonésie. C'est pour ça que j'y suis toujours. Mmh. Les jumeaux n'auraient pas suffi.
Si votre épouse est indonésienne.
Mon épouse est
Prada.
Indonésienne, c'est ça. Mmh. J'ai deux fils. Mmh. Et évidemment que c'est compliqué. Évidemment que c'est compliqué, évidemment qu'il y a des hauts et des bas, mais c'est du long terme. Et moi aujourd'hui, Scalawet, si on me l'enlève, il ne reste plus rien. Pour moi, ça fait partie de mon identité.
Et des soutiens financiers aussi.
Bien sûr.
Dont vous avez besoin. Alors comment ça fonctionne ?
Alors les fonds viennent principalement de France, donc on a des fondations qui nous aident, il y a des fondations depuis le début, comme la fondation 30 millions d'amis, la fondation Bardo, mais encore aujourd'hui, on a d'autres fondations qui nous ont rejoints depuis ces dernières années, la fondation Le Marchand, enfin voilà, il y a beaucoup de donateurs français,
des
donateurs privés, des citoyens. Voilà,
qui deviennent des gardiens de la forêt pour le coup.
Gardiens de la forêt, amis de Kalawet, et c'est le nerf de la guerre parce que c'est ces gens-là qui vont nous faire des dons mensuels pour faire fonctionner la machine. À recevoir des gros dons pour créer des réserves, c'est une chose. Mais il faut que ces réserves, il faut, après avoir fait le foncier et après avoir donné le statut de forêt communale protégée, il faut les gérer. Il faut des gardes, des patrouilles quotidiennes, patrouilles aériennes.
Donc là, vous les prenez parmi
les populations
locales.
Hein. Évidemment, les populations locales. Donc ces amis de Kalawet et gardiens de la forêt nous aident à financer ces patrouilles, financer le quotidien.
Et des zoos aussi qui vous ont soutenu ou qui vous soutiennent peut-être encore, même si vous êtes contre toute forme de captivité et que vous appelez à faire évoluer aussi les zoos.
Bien sûr, bien sûr. Plus de transparence dans les parcs zoologiques et cette notion de captivité qui, moi, avec les années, peut-être parce que je prends de l'âge, mais j'ai de plus en plus de mal à avoir mes propres gibbons et mes propres volières. Et c'est compliqué. Je préfère voir un gibbon ne serait-ce que 3 secondes parce qu'il est en haut de la canopée et qu'il se déplace vite et que j'arrive du mal à le voir qu'aller voir ceux qui sont dans les volières.
Et vous donnez des noms aux animaux, comme Jane Goodall d'ailleurs en ce
comme
temps.
Comme Jane Goodall qui a été critiquée en son temps d'avoir donné des noms aux animaux.
Allez, emmenez-nous peut-être un petit peu sur le terrain parce que si j'ai bien compris, c'est la capture d'un crocodile qui vous a fait connaître la forêt de Doulane. Ouais. Décrivez-nous peut-être cette forêt quand vous l'avez vue pour la première fois.
Première fois, je l'ai vu du ciel et j'ai été surpris de voir une si belle forêt à cet endroit-là. Et la première visite au village, près de la forêt, les villageois m'ont dit qu'il y avait des orang-outans à l'intérieur. Et c'est pas du tout une zone où on pensait qu'il y ait des orang-outans, donc j'y croyais pas. Et quand je suis rentré dans la forêt, alors vous savez, cette forêt cathédrale avec ses très très grands arbres, les grands diptéropes qui peuvent faire plus de 60 mètres, de suite j'ai vu des nids d'orang-outans. De suite, je me suis rendu compte qu'il y avait non seulement des orang-outans, mais il y avait une forte densité, la population était très, très grande. Et ça, il y avait des traces d'ours, des traces de panthères. Voire, j'avais un peu la crainte qu'il y ait trop d'animaux. Parce que c'est une zone cernée par les industries. Mais heureusement, assez grande pour maintenir ces grands mammifères. Et quand vous rentrez dans la forêt d'Oulan, comme toutes les forêts de Bornéo, c'est le son d'abord qui vous marque. C'est une forêt tropicale et une forêt à Bornéo est pas silencieuse du tout. C'est très, très bruyant. Et les bruits vont changer selon l'ensoleillement, tout au long de la journée. Les gibbons qui vont chanter, évidemment, tous les matins pour des raisons territoriales et il y en a énormément dans la forêt d'Oulan, plus de 300 individus. Donc, c'est la zone la plus riche en termes de biodiversité que je n'ai jamais vue ailleurs à Bornéo, parce que vous avez toutes les espèces qui se trouvent dans les plaines, dans les zones de tourbières. Et alors que c'est pas une zone de tourbières, mais les espèces y sont toujours, et celles qui se retrouvent un peu plus dans les hauteurs, c'est une zone tampon, je dirais, où les deux se retrouvent. Et par plein de niveaux, on a été surpris par cette forêt, les orangs-outans qui, dans la littérature, passent quand même la quasi-totalité de leur temps dans les arbres, notamment les femelles ou les jeunes mâles, parce qu'ils sont petits, donc ils ont des prédateurs, l'humain surtout. Sur nos caméras trappes, on a vu qu'à Doulan, ils passaient leur temps au sol, beaucoup de temps au sol, à dormir au sol. Donc ils sont en sécurité, en tout cas maintenant. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez émotionnel quand, oui. avec Doulan.
Et oui, quand vous parliez des nids d'orang-outans, ils ressemblent à quoi? Parce qu'ils sont situés très très haut pour le coup. Hein.
Alors, pas forcément. Ah. On va justement déterminer, quand vous voyez, alors c'est plus une plateforme qu'un nid, oui. pour dormir. Ils en font un chaque soir. Alors j'ai un nid tous les soirs. Si c'est une femelle avec un jeune, ou si c'est un jeune orang-outan, il va le faire très haut, justement, loin des prédateurs. Mais si c'est un grand mâle, il n'a plus vraiment peur des prédateurs, puisqu'il n'en a quasiment plus, un grand mâle qui fait 120 kilos. Donc il va se mettre simplement à la hauteur pour être à l'abri des moustiques, puisque les moustiques ne montent pas. Donc un grand mâle orang-outan, par exemple, va faire son nid à juste 3-4 mètres du sol, c'est tout. Et il fait même des nids au sol pour la sieste. Donc voilà, c'est plus des plateformes que des nids.
Et vous les reconnaissez, hein, parce qu'ils sont différents quand même.
Ils sont différents, il y en a même un orang-outan qui s'appelle Mr. Kotak, Monsieur Carré, qui, pourquoi ce nom-là? Parce qu'il fait ses nids avec des angles de 90 degrés, donc il fait sa plateforme, il fait son nid, et ensuite il va bien, minutieusement, couper les bords pour faire des angles à 90 degrés, pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on reconnaît ses nids, on sait que c'est lui qui les a fait.
À ce stade de l'émission, on va écouter votre choix musical, qui est aussi un choix avec beaucoup d'intention. Je pense que vous avez choisi Vianney, qui chante.
Merci pour ça.
Oui.
C'est le regard sur l'autre, je trouve, qui est illustré dans cette chanson, qui est touchante, quoi. Savoir s'attarder pour déceler les secrets que l'autre peut avoir. Et c'est vrai que dans mon quotidien, auprès des populations, auprès locales, pour moi, ça a été un vrai travail aussi. Je suis allé pour sauver des animaux, mais c'était le faire avec les populations locales et comprendre. Et donc, savoir s'attarder sur des gens qui peuvent paraître invisibles dans un premier temps. Et c'est pour ça que cette chanson me parle beaucoup.
Regardez les autres.
France Culture, De cause à effet, le magazine de l'environnement, Aurélie Luneau.
Les gens qu'on ne regarde pas sont des trésors oubliés. Il y avait tant de choses en toi et peu de gens pour les aimer. Moi je garde nos images que je regarde souvent. Avant de tourner la page, faut le vouloir finalement et demain. Je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi je ne voyais rien. Les gens qu'on ne regarde pas sont des livres jamais lus. Moi j'ai vu au fond de toi un vieux roman qui m'a plu. T'étais pas parfait peut-être, mais tout est à l'imparfait maintenant. Tu es de ceux qu'on regrette, parfois génial, parfois gênant. Et demain, je referai le chemin, mais pas juste à côté des tiens. S'il n'y a que du cœur qu'on voit bien, avant toi je ne voyais rien.
Merci pour ça de Vianney, c'est le choix musical de notre invité Chani. Nous poursuivons De cause à effet, bien sûr, le magazine de l'environnement de France Culture. Nous sommes en direct et à l'occasion du passage à Paris de Aurélien Brûlé dit Chani, nous avons le plaisir justement de l'accueillir dans le studio, ce Français qui sauve la biodiversité en Indonésie. Un combat de tous les jours pour la conservation de cette richesse écosystémique unique face à la déforestation, au braconnage, au trafic des animaux, animaux aux mines de charbon, à l'orpaillage illégal. Il est le fondateur et le directeur de l'association Callaweit, créée en 1998, et auteur de livres dont le dernier s'intitule Hâte d'être à deux mains pour continuer à sauver, un livre paru aux presses du Midi.
Et là, vous avez une caméra trappe. Je l'ai laissée ici pendant 2 mois. On va voir ce qu'elle a enregistré comme image. J'espère que les orang-outans sont passés, des ours sont passés. Pour des ours, c'est quasiment sûr. Et je vais vous montrer une carte aussi avec les différents sentiers de patrouille. Vous allez le voir sur la carte, de différentes couleurs. Ce sont tous les sentiers qu'on utilise pour patrouiller et se déplacer rapidement dans la forêt. Il y a des gibbons qui ont poussé quelques vocalises. Des vocalises d'alerte parce qu'ils m'ont vu. Et là, en face de moi, il y a un nid d'orang-outan. Il est vieux, les feuilles sont sèches, mais il est encore beau. C'est une belle plateforme.
Extrait d'une des vidéos de Callaweit, justement. Là, vous étiez où? À Doulane?
À Doulane.
Et on entend, comme vous le disiez, cet orchestre, en fait.
Ouais,
cet orchestre
ça.
Animal, végétal, de la nature.
Ouais, c'est assez fascinant et c'est à quel point ça peut changer très très vite aussi. Et c'est vrai que toutes les rencontres avec les animaux, moi j'aime bien aller en forêt seul parce que pour moi c'est le seul moyen d'arriver à faire corps avec la forêt et avoir des moments privilégiés avec les animaux sauvages. Et c'est vrai que toutes les rencontres, que ça soit avec Maurice, un gros orang-outan que je rencontre régulièrement, ou avec les gibbons, ça commence toujours par le son. On rencontre jamais un animal sans l'avoir entendu avant, sans avoir décelé des choses par rapport à l'atmosphère qui peut avoir le grand mâle orang-outan qui va choisir le moment le plus silencieux, même s'il est jamais silencieux, mais dans la forêt pour que son grand cri, sa grande vocalise pousse le plus loin possible, ses grands ouh dans la forêt. Donc tout ça, c'est toujours très 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 fascinant. Et il y a encore 4 jours avant de venir, je dormais à Doulane sur une plateforme et j'ai été réveillé en pleine nuit par un waouh, une panthère nébuleuse qui a dû me sentir et qui a poussé sa vocalise. Et c'est vrai que c'est à chaque fois magique.
Alors quand vous marchez justement dans les réserves, Chani, comment êtes-vous équipé pour vous fondre dans la nature, vous mettre à l'affût finalement? Est-ce que vous avez des tenues particulières?
Alors moi je suis pas du tout un adepte de ce qui est militaire, etc. Mais le mimétisme auprès des animaux et le camouflage pour être passé inaperçu, c'est la stratégie des animaux eux-mêmes. Donc moi, en étant seul dans la forêt, si je veux ces moments privilégiés, il faut que ce soit ça. Et quand j'habitue Maurice à ma présence, je l'habitue pas à la présence humaine, mais à ma présence. C'est-à-dire que je dois me comporter à l'opposé des humains qu'il a l'habitude ou qu'il a pu rencontrer dans sa vie. Maurice, il a 35 ans, il a dû en voir des vertes et des pas mûres. Donc je me déplace à 4 pattes, je coupe mon visage, je fais des vocalises, il connaît ma vocalise. Pour le rassurer, si par exemple je tombe dessus alors que je savais pas qu'il était là, je suis toujours en position bipède, puisque les animaux sauvages, tous les animaux sauvages, que ça soit le sanglier, le chevreuil en France, que l'orang-outan, il a une définition de l'humain. Et la définition de l'humain, c'est un mammifère au sol, bipède, le visage découvert. Et si vous ne correspondez pas à cette définition, vous allez brouiller les pistes. Mmh. Et au pire, vous gagnez déjà quelques secondes parce que vous avez une confusion de l'animal qui cherche à savoir ce que c'est. Et si vous montez dans un arbre, là, ils sont encore plus dans l'interrogation et vous arrivez vraiment à susciter l'interrogation. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une relation privilégiée. Et encore une fois, avec Maurice, par exemple, ce fameux orang-outan, il est habitué à Chani et pas aux humains. Et c'est important parce que si demain il croise un humain avec de mauvaises intentions, il faut qu'il garde ses réflexes d'orang-outan sauvage.
Alors, quelles sont vos vocalises?
Alors, je... Ça va être ma vocalise. C'est en fait la fin d'une vocalise de femelle qui souvent, quand elle est embêtée, va faire un... Et donc moi, je fais que la dernière partie. Et c'est une vocalise qui l'associe à Chani, qui m'associe. Et donc, ça m'est arrivé de tomber sur lui et d'être surpris par sa présence. Donc, il va, lui, s'enfuir. Et en simplement faisant cette vocalise-là, vous avez l'orang-outan qui s'arrête. En fait, c'est que Chani, quoi. Donc ça va.
Et alors leur langage, on parle souvent donc des gibbons, des orang-outans, mais il y a aussi d'autres animaux. On l'a compris. D'une manière générale, vous avez appris le langage de certaines espèces, peut-être.
Plus les gibbons, j'ai tellement passé de temps avec eux et ça passe.
Il y a des espèces de gibbons d'ailleurs.
Exactement, il y a une vingtaine d'espèces de gibbons. Je dis une vingtaine, je sais pas un chiffre précis parce qu'il y a toujours des débats entre les scientifiques sur les espèces, mais c'est du body language. C'est la manière de se positionner, la manière de se regarder, la manière de qu'un gibbon va avoir de passer derrière sa partenaire, à la frôler, alors qu'il aurait très bien pu passer un mètre derrière. La manière de poser son doigt sur la main de son partenaire. Ça passe par plein de détails. Et c'est aussi dans le milieu naturel, alors que les gibbons ils sont dans un autre monde, ils sont dans la canopée, donc ils sont toujours très loin, mais avec les orang-outans par exemple, c'est pour ça que la captivité c'est quelque chose d'aliénant, et moi je rentrerai jamais dans une volière avec un orang-outan adulte qui fait 120 kilos, alors qu'à Doulane je me suis trouvé avec Maurice à 2 mètres et
vous sentir en danger, c'est ça ?
Absolument pas, il a aucune raison, il est bien dans sa tête, et alors que la captivité rend des animaux avec des problèmes psychologiques qui, du coup, les rendent agressifs. Donc, faut faire profil bas. Il faut accepter que l'animal vienne ou pas. Mais en tout cas, c'est lui qui décide. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est vrai qu'avec les gibbons, parfois, je dis que je parle un peu leur langage. Et même avec mes équipes qui s'occupent des gibbons, je leur dis, vous occupez-vous bien des gibbons, parce que si vous en occupez pas bien, c'est eux qui me le diront. Et y a un peu de ça. Et tout ça, c'est lié à ces heures et ces heures d'observation quand j'étais gamin au zoo.
Et les regards ?
Et les regards, évidemment. Et là, il y a aussi beaucoup d'anthropomorphisme, mais assumé. Il n'y a pas mort d'homme. Et en tout cas, moi, quand j'étais gamin, c'était encore une fois rempli d'anthropomorphisme. Et aujourd'hui, il y a aussi une chose avec les animaux. Les gens qui disent que tous les animaux sont gentils, tous les autres, non. Tous les animaux ont leur personnalité. Vous avez des primates qui sont des qui sont des animaux très difficiles parce qu'ils ont leur caractère. Et vous en avez d'autres qui sont introvertis, etc. Et c'est
ça
qui
me plaît. Comme les humains.
Exactement comme les humains. Mais ce qui est fascinant avec les primates et avec les grands singes, même si c'est très proche des humains, c'est toute cette petite partie qui est différente. C'est ça qui est fascinant. Et c'est d'essayer de percer ces secrets-là. J'y arriverai jamais. Une vie d'homme suffit pas. Mais c'est ça qui est fascinant.
Sauver des animaux, des forêts riches de biodiversité, Chani, c'est une responsabilité écrasante. Vous parlez souvent de responsabilité, de crainte, d'urgence, de peur. C'est votre quotidien ?
Oui, parce que vous devez, c'est une partie d'échec. Vous devez toujours avoir un coup d'avance. Et du coup, vous devez toujours envisager le scénario, le pire scénario. Donc, quand vous faites quelque chose qui vous tient à cœur, quand vous découvrez cette forêt, quand je découvre Doulane en 2019, et que je sais que chaque parcelle que je ne pourrais pas sécuriser, ça va devenir du palmier à huile, vous avez cette pression et cette peur d'ouvrir votre portable et d'avoir une mauvaise nouvelle, peut-être peur de... Donc c'est parfois difficile, mais c'est ça aussi qui fait qu'on y est arrivé pour Doulane. Mais c'est vrai que ça repose sur le fait, on revient sur l'engagement. D'où vient cet engagement ? S'il vient des tripes, ben forcément que vous vous levez le matin parfois avec la boule au ventre parce que vous avez des craintes de pas y arriver. Vous savez que ben là, cette parcelle-là, vous n'avez pas les fonds, vous n'allez pas pouvoir. Donc c'est parce qu'on travaille avec son cœur, donc forcément ça nous atteint. Donc il faut gérer ça aussi.
Est-ce que vous avez subi des menaces directes, hein ? On pense peut-être aux orpailleurs ou à d'autres qui, eux, ont de gros intérêts quand même, hein, sur ces terres.
Oui, alors j'en parle pas beaucoup parce que je veux pas qu'on résume mes 27 ans en Indonésie à ça, mais effectivement ça m'est arrivé en 2015 quand j'avais dénoncé des incendies, de devoir envoyer ma famille dans une autre partie de Bornéo parce qu'on recevait des menaces. Le lendemain, les gens avaient essayé de brûler ma maison. Au début de Kalawet, on avait aménagé un bateau pour pouvoir vivre aussi bien en ville que dans la forêt en suivant le fleuve. Donc c'était notre maison, il a été coulé par des bûcherons. Donc... Mais ça, il faut s'y attendre. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous dérangez, ça veut dire que vous commencez à être efficace. Si vous êtes copain avec tout le monde, si tout le monde vous apprécie, En Indonésie, ça veut dire que vous ne faites pas grand-chose.
Mais il y a ces risques hein, quand même, parce que vous citez aussi dans votre livre Johanna Stuchbury, ouais. Qui au Kenya tentait de sauver une forêt et qui, donc non loin de la capitale Nairobi, qui à 67 ans a été assassinée le 15 juillet 2021. Voilà, une pensée bien sûr pour tous ces acteurs de la protection de l'environnement.
C'est sûr qu'on dérange, donc si on agit concrètement, il faut savoir... C'est vrai que moi c'était facile au début. Mais après, quand dans une famille, on a des enfants. Je me souviens, Andrew, mon plus grand fils, de voir, quand je l'allais le récupérer à l'école, de voir rentrer dans l'école, le récupérer dans la classe, pour pas qu'il vienne au devant de l'école où il y avait trop de monde et de peur que quelqu'un d'autre, enfin, qu'il se passe quelque chose, l'enlève. Donc, oui, il y a eu cette partie-là aussi. Mais c'est vrai que ça résume pas parce qu'encore une fois, je suis toujours en Indonésie, après 27 ans. Parce que j'ai le soutien des populations locales et c'est elles qui me protègent dans ces moments-là. J'ai ma petite armée, tous les gens qui travaillent à Calaouette, il y a une 60aine de personnes qui sont là pour me protéger aussi.
Oui, mais parce qu'effectivement, il faut naviguer entre ces moments à la fois de bonheur, de soulagement et puis des moments de désespoir. Je cite une partie de votre livre, « Parfois je rêve de liberté, sans renoncer au combat. Je rêve de ressentir un peu de calme dans mon cœur, de lâcher prise, de ne plus avoir ce poids sur les épaules, celui de Calaouette. Je rêve de légèreté et d'insouciance, de rire sans crainte. » Vos plus belles réussites?
Ces hectares de forêt protégés. Voir ces animaux dans leur forêt. Et savoir que si on n'avait pas été là, ben, ils ne seraient plus là, la forêt aurait disparu. Et c'est vraiment ça, avec le soutien, ces millions d'Indonésiens qui sont derrière Calaouette aujourd'hui, qui me voient comme un Indonésien. Alors, originaire de France, je serais toujours le blanc de service en Indonésie. Tout ça me touche beaucoup. Et pour moi, c'est très important de le faire comme ça et de protéger tous ces hectares de forêt.
On ne veut pas que nos forêts soient rasées. On veut les protéger pour que ces forêts indonésiennes perdurent. Pour nous, la forêt est une source de vie, de connaissances et une source de revenus. Nous ne voulons pas que nos forêts perdent du terrain. Dans cette forêt, de nombreuses espèces ont disparu, notamment des pangolins et plusieurs espèces d'oiseaux. Nous voulons vraiment que les espèces de cette forêt soient sauvegardées. Pour que plus tard, nous puissions dire à nos enfants et à nos petits-enfants que tous ces animaux existent, et pas seulement dans les livres d'histoire.
Extrait d'un reportage diffusé sur France Culture le 28 novembre 2023. On entendait ces témoignages, ces populations, ces villageois dont vous nous parlez. Et c'est tellement précieux, on comprend dans votre combat. Il faut croire en une écologie politique qui viendrait des populations et puis, in fine, des États.
Bien sûr qu'à un moment donné, il faut arriver à ça. Et c'est tout un processus qui, malheureusement, prend du temps. Ça fait forcément partie de la solution à un moment donné. Mais c'est avant d'arriver à ça, il faut qu'il y ait des initiatives concrètes sur le terrain. Et c'est là, encore une fois, à notre modeste échelle de Calaouette, mais où est-ce qu'on peut faire la différence? En attendant d'arriver à des prises de pouvoir de personnes qui vont aller dans la bonne direction. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Et en Indonésie, on est à des années-lumière d'avoir des politiques qui misent ou qui, en arrivant avec des arguments sur l'environnement, pour une campagne électorale, par exemple, puisque la population n'est pas du tout prête à ça. Donc c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut en attendre. Il faut ce travail d'aller vers les politiques, arriver à ça. Mais entre-temps, il faut agir. On peut pas se permettre simplement de miser sur ça, parce que ça va prendre beaucoup, beaucoup trop de temps.
Donc pour l'instant, oui, vous ne sentez pas ces intentions-là du côté ou des États ou des politiques, des candidats hein, que vous pouvez percevoir en Indonésie. Non, c'est-à-dire que la déforestation va continuer.
Malheureusement,
et elle continue.
Oui. Malheureusement, oui. Encore l'année dernière, on a perdu rien qu'à Bornéo 200 000 hectares. Et avec la nouvelle présidence, tout laisse à penser que ça va s'aggraver. Et au niveau national, on a le plus grand projet de déforestation au monde qui voit le jour en Papouasie. 3 millions d'hectares qui sont destinés aux palmiers, au bioéthanol. Donc ça reste extrêmement compliqué, mais encore une fois, on peut maintenir des discours un peu généraux sur la conservation, sur ces forêts, mais Et on peut paraître tout petit face à l'industrie de l'huile de palme, mais localement, on peut remporter des victoires sur dans telle commune, avec tel village, avec telle communauté. Et c'est ce que nous, on montre, que ça soit à Sumatra, à Bornéo, dans les zones où on travaille, localement, on a gagné face à l'industrie de l'huile de palme. Donc oui, localement, on peut faire la différence.
Et en dehors de l'Indonésie, qu'est-ce que les autres populations d'autres pays peuvent faire ? Ne rien acheter avec de l'huile de palme ?
C'est ça, il y a
une sorte de boycott.
Maintenir ce boycott de l'huile de palme, même si ça ne changera pas réellement la donne, mais c'est un message très fort envoyé qui change parfois l'opinion de ceux qui ont des concessions de palmiers à huile. Moi, ça m'est arrivé en Indonésie d'avoir des concessions où il y a une partie de la forêt qui a été protégée parce que le grand patron de la compagnie, qui voyage aussi en Europe, voyage aussi aux États-Unis, voulait se différencier et dire « moi, je fais de l'huile de palme, mais je protège une partie de la forêt ». Donc au moins, il y a ces victoires-là. On se fiche de quelles sont ses raisons, si c'est simplement pour son image, ou en tout cas, maintenir ce discours anti-huile de palme. On n'en veut pas, il n'y a pas d'huile de palme durable, c'est faux. Toutes les plantations de palmiers à huile se ressemblent, ce sont des monocultures, donc il ne faut pas tomber dans le panneau.
Et rien ne pousse dessous. Hein.
Et non, c'est fini, c'est fini.
Des hectares et des hectares de palmiers.
À l'échelle de région, si on met ça à l'échelle de la France, il y a des échelles de la région, il ne reste plus un seul arbre. Donc c'est une réalité, donc c'est important de garder ce discours ferme, même s'il y a du lobbying qui va nous parler justement d'une huile de palme plus respectueuse de l'environnement. Cela n'existe pas en Indonésie et en Malaisie, qui sont les deux premiers pays exportateurs d'huile de palme. La seule huile de palme durable, c'est là d'où elle vient, en Afrique centrale, où vous avez du palmier à huile qui pousse dans la forêt. Et là, je veux bien comprendre qu'elle soit respectueuse de l'environnement, mais c'est pas celle qu'on retrouve dans les carburants et dans nos cookies ici.
Oui, j'allais vous demander, on trouve cette huile de palme où ?
De partout, ça va être du lait pour bébé, aux croquettes pour chiens.
Dans les savons aussi.
Dans les savons, de partout. Et parce qu'elle est simplement moins chère que les autres. Hein. On va nous dire que ça va être, des besoins alimentaires, tout ça. Non, c'est faux, c'est simplement une explosion de l'huile de palme parce que c'est la moins chère. Elle a certes des propriétés comme plus onctueuses à température ambiante, etc. etc. mais c'est avant tout le coût, c'est la moins chère, la plus facile à produire.
En tout cas, des poches de forêt, des refuges de biodiversité, il y en a bien d'autres, donc menacés à court terme. Vous avez quand même peut-être besoin aussi de voir des ONG se rapprocher de vos méthodes ou de vous pour acheter des terres et permettre de travailler aussi avec les populations locales.
Ce schéma d'aider les villages à acheter des terres pour en faire des forêts communales protégées, puisqu'aujourd'hui c'est validé par les autorités même de Jakarta, le ministre a prévu ce mois-ci, en fin du mois de juin, de venir à Kalawet. Donc c'est un soutien considérable. Et donc évidemment, j'espère que d'autres ONG vont montrer à quel point elles aussi elles sont engagées sur le long terme, pas simplement sur le plat papier, pas simplement dans les grandes réunions et pas simplement dans les médias. Des lanceurs d'alerte, il y en a assez. On a maintenant besoin de personnes de terrain. Donc oui, j'aimerais bien que des personnes s'inspirent de ce qu'on fait pour protéger plus. Il n'y aura jamais trop d'initiatives pour protéger la forêt.
Je vous posais la question de vos plus belles réussites tout à l'heure. Le retour quand même du tigre dans une de vos réserves, ça a été un moment incroyable.
Bah oui, parce que c'est la preuve que, sans grande théorie, simplement si on laisse la nature en paix, même le grand prédateur, qui était une légende, pour tellement, ça faisait longtemps, des décennies qu'il avait disparu de cette zone-là, pour les villageois, ils en parlaient vraiment comme d'un fantôme. Et après une dizaine d'années de forêts protégées, donc on a vu beaucoup de gibier, etc., et le tigre revenir. Maintenant, on suit 4 individus régulièrement sur nos caméras trappes dans cette zone-là, qui fait que 500 hectares aujourd'hui. C'est une toute petite zone, mais c'est devenu un garde-manger, donc ils ne restent pas là évidemment, mais ils y passent pour chasser. Alors qu'on n'a rien fait d'autre, on a simplement protégé la forêt et les animaux.
Sanctuarisé, on peut dire.
C'est ça, complètement.
Et alors vous vivez dans une maison autonome en pleine jungle, alors autonome en énergie aussi, avec des panneaux solaires, en eau potable, vous récupérez l'eau de pluie, voilà. Et dites-nous peut-être comment vous vivez, parce que vous êtes vraiment au cœur de la jungle.
Bah oui, cette maison, elle est à 150 mètres du fleuve et il n'y a pas de voie terrestre, donc on y arrive par bateau. Et c'est dans une de nos réserves qui fait 306 hectares. Et autour, on a des nazis, c'est Saint-Jean-des-Buttes de Bordeaux avec un gros nez, qui font tous les matins. Et il y a une clôture électrique autour de la maison pour pas que les singes rentrent dans la maison. Donc on s'est mis en cage, les animaux sont en liberté. et oui, c'est une sérénité.
Sur pilotis. Quand même. Il faut expliquer pourquoi.
Comme les orangs-outans, pour être à l'abri des moustiques. Donc c'est à 3 mètres du sol pour éviter.
Et des reptiles aussi peut-être.
Et des reptiles évidemment, et de l'humidité. Et donc c'est toujours mieux, et on n'a rien inventé. Je parlais de l'orang-outan, mais aussi les peuples d'Ayak de Bornéo, les maisons traditionnelles sont sur pilotis très hautes, justement pour ces raisons-là. Et voilà, c'est notre maison. Avec un potager, mon épouse qui fait... Donc on est en autarcie aussi par rapport aux légumes.
Alors, le devenir de Callaweit, après vous, vous y pensez? Est-ce que vous sentez qu'il y a une relève peut-être du côté de vos enfants? Mais c'est quand même une question aussi qui se pose.
Ah, c'est une vraie question et on se la pose dès le premier gibbon ou le premier animal reçu, parce que c'est une responsabilité sur la durée. Les réserves, c'est la même chose, alors que évidemment, j'ai une équipe, je suis pas seul. Les projets sont très autonomes, c'est pour ça que moi aujourd'hui à Callaweit, je me concentre surtout sur la création de nouveaux projets parce que tout ce qui est créé fonctionne. Mes enfants ont grandi dans la forêt, ça fait partie de leur quotidien, de leur vie. Alors maintenant Andrew, il a 21 ans et il s'engage de plus en plus. Donc j'impose rien, tout est naturel évidemment. Et je sais que c'est pas que Callaweit, c'est ça plus ça plus ça. Moi aussi, j'ai fait plein de choses. Ça m'est arrivé de présenter des émissions de télé. Ça m'a pas éloigné de Callaweit. Donc oui. Mes enfants, ils ont leurs propres rêves, ils ont leurs propres ambitions.
Oui, c'est vrai. L'école, la formation, façon que vous avez aussi des vétérinaires, des personnes vraiment formées qui travaillent avec vous.
Exactement. Donc oui, il y a du monde derrière moi. Je suis pas tout seul.
Oui, parce qu'en même temps, vous expliquez aussi que s'il n'y a pas de reprise par une organisation de conservation indépendante ou d'État, les terres deviendront communales avec l'engagement des villageois de ne pas chasser ni couper des arbres. Vous avez quand même anticipé ça aussi.
Voilà, c'est ça. C'est des forêts communales dès le départ, mais c'est vrai que la gestion en revient aux villageois si jamais Callaweit venait à disparaître ou s'il n'y avait pas d'autres ONG qui prenaient la relève. Donc ça, c'est dans les accords avec les villages.
Et du côté de vos enfants, vous sentez qu'ils ont envie de poursuivre?
Oui, mais c'est un poids.
Ils ont quel âge aujourd'hui?
Andrew, il a 21 ans et sinon Enzo, il a 16 ans.
Et ils ont passé leur vie en Indonésie?
Ils sont nés en Indonésie, ils ont passé leur vie en Indonésie.
Ils ont étudié en Indonésie, oui. Vos prochains défis, rêves, objectifs?
Faire de Doulan un exemple que je vais multiplier. Aujourd'hui, je passe beaucoup de temps à faire des repérages pour commencer de nouvelles réserves. Et donc, c'est vraiment essayer de sécuriser un maximum. Ça sera jamais assez, donc voilà, pas surtout s'endormir sur ses lauriers et dire tout est... Non, on a protégé qu'une mini-fraction de ce qu'il y a à sauver. Il y a encore beaucoup de choses à sauver, la situation est difficile, mais encore une fois, l'espoir naît dans l'action, donc il faut agir pour avoir des résultats immédiats, concrets et sauver.
Et alors, que dites-vous à vos enfants quand même, Andrew et Enzo, sur la vie, sur l'avenir? Parce qu'on parle beaucoup là de l'environnement, de la biodiversité, mais il y a aussi le réchauffement climatique. Tout est imprégné. Vous parlez aussi dans votre livre des rapports du GIEC, par exemple. On est vraiment dans cet univers-là et ouais. Un monde qui, en matière de géopolitique, n'est pas forcément des plus heureux non plus. Ouais. Comment ils voient les choses?
Ils voient les choses dans l'action, donc c'est complètement différent. Ils ont évidemment conscience de tout ça parce qu'ils ont le nez dedans. On subit les inondations comme tous les autres Indonésiens à Bornéo à cause justement du réchauffement climatique, de la perte de la forêt, de tout ça. Mais on est dans l'action. Et je pense que ces gens qui ont un discours trop négatif, trop pessimiste, ici en Europe, ils l'ont parce qu'ils sont pas dans l'action. Moi, je sais ce que ça fait quand on se couche le soir et qu'on a sauvé 20 hectares de forêt. Ça vous remplit d'énergie pour continuer et vous savez que oui, la situation est difficile, mais vous pouvez faire la différence, vous pouvez gagner des victoires localement. Et je peux comprendre que quelqu'un qui parle sincèrement de l'environnement soit un peu, et ce côté un peu dépressif où on n'a pas trop envie de l'écouter parce qu'il va nous plomber le moral, parce que lui n'est pas dans l'action. Moi, mes enfants, ils enfilent leur chemise verte comme leur papa pour aller sauver.
Se fondre dans la forêt
et faire la différence, sauver des choses, sauver des hectares de forêt, sauver des animaux. Et ça, il n'y a rien de plus concret et de parlant et de gratifiant à la fin de la journée, quoi.
Donc le mot de la fin, là, pour nos auditeurs, si vous aviez un message à leur donner.
Ben, c'est l'action et soutenir ceux qui agissent concrètement sur le terrain et qui vous parlent d'objectifs atteignables, précis, localisés. Ne tombez plus dans le panneau quand on vous parle de sauver l'Amazonie, sauver la forêt, ça veut rien dire. Posez-vous des questions parce que les vraies victoires, les vrais combats, ils se mènent localement, donc géographiquement identifiables.
Et les gardiens de la forêt peuvent venir vous voir, hein, je crois, sur place.
C'est ça.
Merci Chani.
Merci à vous.
J'allais dire Aurélien Brûlé, dit Chani, voilà, à conseiller la lecture de vos livres, dont hâte d'être à demain pour continuer à sauver un livre paru aux presses du Midi. Et puis bien sûr, un rendez-vous sur le site callaway.org et votre chaîne YouTube pour ceux qui ont envie de plonger dans vos vidéos et s'immerger à vos côtés. Livres, liens, informations sont à votre disposition sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, où vous trouverez d'autres podcasts en lien avec le sujet.